Egunon deneri, bonjour à toutes et à tous, eta ongi etorri dans ce nouveau podcast du groupe citoyen Elgarrekin. L'association Elgarrekin se dirige tout droit vers les prochaines élections municipales, puisqu'elle a décidé de soutenir et de composer autour de la majorité municipale actuelle une liste qui est menée par l'actuel maire du Rhône, Philippe Aramendi. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est de vous faire découvrir, à vous les Ourougnards, de vous faire connaître les membres de ce groupe. Et je vous propose de rencontrer aujourd'hui Jean-Serge Saint-Avit. Jean-Serge, Egunon.
Egunon, Denery, Egunon.
Alors Jean-Serge, tu as grandi dans le Gers. Alors certains diront que tu as gardé un léger accent. Puis tu as bourlingué un peu partout en France avant de poser tes valises à Urugne. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'installer ici ?
C'est une conjonction de plusieurs choses. Un souci de santé déjà, qui fait que je vais chez un kiné qui est le Nicolas Balerdi, le fils de l'ancien docteur du Rhône, qui est installé à Cibourg. Et à un moment où je me séparais du reste de ma famille, en gros, nous vivions à Cibourg à l'époque, lui m'a proposé le studio chez sa maman. Et je suis arrivé ici donc en 2016, pardon. Et voilà.
Alors, tout au long de ta vie, tu as eu, on va dire même plusieurs vies, j'ai l'impression. En tout cas, tu as travaillé dans les forages pétroliers pendant plus de 10 ans. Puis ensuite, tu as pris une longue pause, on va dire, de 14 ans pour t'occuper de tes filles. C'est un choix rare et courageux. Alors, comment as-tu vécu cette transition et ces expériences ?
Pour revenir au forage pétrolier, c'était, comment dire, je n'étais pas un échec scolaire totalement, mais je voulais travailler rapidement d'une vie familiale qui était ce qu'elle était à l'époque. Et donc je voulais partir de chez moi. Le meilleur moyen, c'était d'aller travailler. Je voulais faire quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. Je n'ai pas été déçu, pour le coup.
C'était où ?
D'abord en France, sur les chantiers un peu partout. Alors, au départ, dans la région paloise, puis la région parisienne, la région d'Arcachon. J'ai même travaillé... je me tape sur les doigts, là. À Bure, dans la Meuse, le site d'enfouissement, ce qui va devenir le site d'enfouissement des déchets radioactifs. Mais là, c'était pour des essais de sol, essentiellement. Et sinon, c'était pour les forages pétroliers. Puis ensuite, au Gabon, où je suis resté 2 ans. À une époque, à un moment où une baisse d'activité, donc je suis revenu en France.
On est dans quelle année là, pour qu'on puisse se situer un petit peu ?
C'était au siècle dernier.
Oui, j'imagine.
98, 97, 98, d'accord. 99. Mmh. Et une petite pause en France, comme... chez Michelin, comme dans les, comment dire, dans la qualité, voilà, oui. Les pneus, la qualité. Puis pour une boîte de Lyon aussi, à côté de Lyon, dans les essais de sol, dans les forages à nouveau, mais les essais de sol, donc à faible profondeur.
Puis, et comment on arrive à laisser tout ça de côté pour décider de s'occuper de ses enfants ?
La maladie.
D'accord.
La maladie, souci de santé, d'équilibre. Donc la maladie, la sclérose en plaques. Des soucis d'équilibre essentiellement, et puis de motricité, petit à petit, qui vont en s'accroissant. Les enfants sont nés, donc il faut s'en occuper. Comme ça, il n'y a plus de problème de nounou. Puisque maintenant, à partir de 2003, 2004, j'ai une autre vie, celle de responsable logistique familiale, père au foyer.
Voilà, un métier pas toujours facile.
Pas du tout reconnu.
Pas du tout reconnu, mais qui peut être quand même source de...
Ah,
de grand amour.
Ouais, de grand amour et puis d'énormes satisfactions. 20 ans plus tard, on le voit, quoi. On y est. Bon.
Tu as vécu à Cibourg aussi quelques années. Tu as fait partie d'une équipe d'opposition municipale face à Guy Pouloux à l'époque. C'est une première expérience dans l'action politique, pardon. Elle t'a marqué ?
Absolument, à l'action politique locale. Ouais, être opposant à Guy Pouloux à Cibourg à l'époque, c'était pas bien compliqué, si je peux dire. Oui, j'ai appris plein de choses, pas mal de choses, oui.
Aujourd'hui, tu es artisan savonnier.
Absolument.
Peux-tu nous raconter un peu comment tu es passé de la chimie amusante à la fabrication de savon et surtout, qu'est-ce qui rend tes savons uniques ?
Le côté unique du savon, à Urugne, de toute manière, ce sont les meilleurs savons d'Urugne, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. comment dire dans cette période où je gardais les filles, j'en ai profité pour me former, enfin pour reprendre les études, pour passer un BTS en économie sociale et familiale. Et là aussi, quelque chose d'hyper enrichissant, dans le sens où j'ai vu des choses que je ne connaissais pas. Donc, alors, je ne sais pas si on en parlera plus tard.
Oui, on y reviendra, oui.
Mais la pyramide de Maslow, par exemple, tout ça, ça a été la base de trouver le produit à faire qui puisse satisfaire tout le monde. La première marche de la pyramide de Maslow, tout le monde passe par cette marche-là avant de monter vers les besoins essentiels. Enfin, les besoins individuels, je veux dire. Là, ce sont les besoins essentiels. Donc, sachant que je ne pouvais pas faire quelque chose qui puisse nourrir tout le monde, sachant que je ne pouvais pas non plus construire des maisons ou comme ça, l'hygiène, ça fait partie des besoins essentiels.
Ça concerne tout le monde.
Voilà, ça concerne tout le monde. Et je suis parti sur... puis c'était accessible. Et bon, ça n'est rien d'autre que de la chimie amusante. Et tant que ça m'amuse, je joue.
Super. Alors, avant de poursuivre au sujet de tes engagements, je te propose de poursuivre justement, de passer à notre jeu, pardon, le plutôt ça ou plutôt ça. Alors, je te donne deux propositions. Tu dois en choisir qu'une seule. Tu peux évidemment te justifier, mais rapidement. Tu sais bien que choisir, c'est renoncer. Alors, c'est parti.
C'est parti.
On commence gentiment avec plutôt montagne ou plutôt océan ?
Ah, plutôt montagne. Mm-hmm. Même si j'ai du mal aujourd'hui à aligner les mètres. Mais sinon, j'ai plutôt une préférence pour la montagne.
Pour la montagne, oui. D'accord. Ouais. Plutôt un bon roman ou une BD ?
Ah, là, c'est dur. Là, c'est compliqué.
En fonction des moments, peut-être, dans la vie ?
Ça va dépendre des moments, effectivement. Bon, si c'est Little Kevin, le roman devrait être très, très bien. Hein.
Okay.
Mais si c'est un bon roman, bon... Mais
alors là, je suis désolé. Prochaine question piège. Plutôt un Perrier à Plassane ou un café au Trinquet ? T'as droit à un joker.
Non, Perrier en ce moment, c'est pas... il a pas...
Pas de Perrier en ce moment ?
Non, pas de Perrier en ce moment, non. Non. Donc, un café à Plassane.
D'accord.
au Trinquet, pardon.
Un café, commandé au Trinquet, bu à Plassane, comme
ouais,
ça.
Ouais. Bon, café poté. Allez.
Alors, pour les soirées, plutôt une soirée au cinéma ou un débat politique avec les potes ?
Là aussi, c'est compliqué. Si le film est quand même très bien, ça sera peut-être au cinéma, mais un débat politique à bâton rompu avec des potes.
C'est sympa aussi.
C'est sympa aussi, quand même. Hein.
Une dernière question. Plutôt France Culture ou le monde diplomatique ?
Alors, France Culture, actuellement... je suis en train de régler le problème. Il y a des personnes et des journalistes qui ne conviennent pas à France Culture.
C'est donc, vrai qu'il y a eu des changements lors de la rentrée précédente.
Et donc je suis en train de laisser tomber France Culture. Le diplôme, c'est une valeur sûre.
Alors, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On va discuter maintenant de tes passions, de tes engagements à Urugne. Tu as parlé tout à l'heure d'une reprise d'études vers la quarantaine d'années. Tu as passé un BTS en économie sociale et familiale. Alors, reprendre ces études à 40 ans, là non plus, ce n'est pas anodin, c'est un défi. Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté ?
C'était hyper enrichissant. Alors, j'avais commencé par le CNED. Reprendre les études par le CNED, à une époque où le CNED, le lien avec le CNED se faisait par la poste. C'était pas par Internet. Hein,
une autre époque.
C'était ce siècle pourtant. Hein.
D'accord. Mais... les choses vont vite.
Oui. Non, maintenant, ils échangent par mail, mais à l'époque, c'était mail postal uniquement. Donc, il y avait un temps de latence entre l'envoi du courrier, la réponse, etc. Enfin, bon, c'était un autre monde. Mais par contre, j'avais commencé avec le CNED. J'ai vu plein de choses que je ne connaissais pas. J'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas et c'était très riche. Et j'ai fini dans les Landes, dans une MFR. Étant, une maison familiale rurale.
D'accord.
Centre de formation familiale et rurale. Et hélas, à 43 ans, avoir deux fois l'âge des plus jeunes,
étudiants.
Des autres étudiants, tu te dis, waouh, quand même hein.
C'est drôle.
C'est quelque chose.
Ouais. Et bon, on découvre aussi une autre génération.
On découvre absolument une autre génération. Et alors bon, ça a été... Ouais, puis avec l'expérience de la vie, quoi. Et il y a eu des fois où ça piquait un peu.
Pas toujours évident.
Ouais, ça piquait un peu.
Alors, Jean-Serge, on ne va pas se le cacher, tu es connu comme le loup blanc au bord du Rhume, hein, grâce à tes savants, on en a parlé, ton franc-parler hein, aussi, mais aussi pour ta démarche hein, et la canne que tu utilises pour t'aider à marcher. Tu en as parlé tout à l'heure, tu vis avec la sclérose en plaques depuis 25 ans environ. Alors comment cette réalité influence-t-elle ton quotidien, tes engagements ?
Ah ben déjà, donc je vais moins loin que ce que j'ai pu aller à une époque. Donc il s'en allait clopin. Comme chantait Yves Olévy, Yves Montand, pardon. À défaut de faire sans, ben, il faut faire avec. Donc on continue d'avancer quoi qu'il arrive. Quoi.
Mais ça ne t'a pas empêché, par exemple, d'être cofondateur de la RUNCOP. Tu es toujours un membre actif. C'est un projet qui te tient à cœur depuis le début. Peux-tu nous en parler un petit peu, ce que cette association, cette coopérative apporte à la commune ?
La RUNCOP, on a commencé de travailler dessus en 2018. Je travaillais en parallèle d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, sur les savons, là, justement. Alors d'un côté, mes journées étaient partagées, assez partagées, entre la validation des recettes de savons et le soir, on travaillait sur la RUNCOP, sur les textes, notamment les textes fondateurs. C'est une initiative citoyenne, la RUNCOP. Hein, une association, une épicerie associative qui est tenue par des amateurs uniquement. C'est pour ça que quelquefois il y a des pétiots, même s'ils ne sont pas gros, il y a quand même des pétiots. Personne n'est professionnel de l'épicerie là-dedans. Mais chacun fait au mieux, quoi qu'il arrive. Et ce qui prévaut avant tout, c'est l'intelligence collective là-dedans. Donc, c'est une tranche de vie mais hyper enrichissante. Mmh.
Aujourd'hui, tu es engagé dans la liste Elgarekin qui se présente aux prochaines élections municipales. Tu es déjà membre de cette association depuis plusieurs années. Quelle est la place et le rôle que tu as trouvé dans ce groupe jusqu'à présent ?
Là aussi, encore une fois, mais ouais, j'ai parlé d'expérience enrichissante une fois de plus, mais il n'y a pas d'autre mot. Croiser des personnes que je n'aurais jamais croisé autrement, et puis une expérience. Enfin, voilà, c'est assez unique, il faut le vivre, je crois, pour bien évaluer l'impact.
Et on peut dire que c'est une suite logique aussi à tes engagements dans des associations nationales telles que les écologistes ou ATTAC. C'est une suite logique pour toi ?
Oui, l'adhésion à ATTAC, à Chez les Verts et à Elgarekin, oui, tout est lié en fait. ATTAC, pour présenter en deux mots, c'est l'association pour la taxation sur les transactions financières pour l'action citoyenne. Bon, on ne va pas se le cacher, c'est une association plutôt ancrée à gauche. Comme les écologistes, on peut le dire de la même façon. Donc, qui ont une vision, était présente dans 120 pays dans le monde, c'est né en 98, pardon. Les écologistes font suite à ELV, qui eux-mêmes étaient une suite d'une agglomération de plusieurs partis. Et en fait, ce sont une association et un parti politique qui ont une vision humaine et humaniste de la globalité du monde et des peuples. Ils sont pour l'autodétermination des peuples à décider d'eux-mêmes, par exemple.
C'est ce qui t'a amené du coup à adhérer à Elgarekin, j'imagine.
Voilà, je retrouve non seulement les mêmes valeurs, mais en plus ce sont des valeurs que j'ai à moi, quoi. Ça me paraît normal d'adhérer.
On arrive à la dernière question. Tu apprends le Euskara. Et qu'est-ce que c'est d'apprendre cette langue, justement, qui est connue pour sa complexité, sur le tard ? Est-ce si difficile que ça ?
Moi, bon, je ne trouve pas que ce soit si difficile que ça. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais il n'y a pas de langue facile. Avant que mes filles ne naissent, oui, c'était déjà au siècle dernier, à une époque où je commençais de tourner en rond, tout ça, je m'étais mis à apprendre le russe. Quitte à apprendre une nouvelle langue, autant apprendre un nouvel alphabet aussi. et donc, j'avais commencé d'apprendre le russe, c'était donc il y a plus de 25 ans. Et alors, je ne dis pas que je parle russe du tout aujourd'hui. Il me reste à peine 5-10 mots, pas plus.
Donc, tu ne serais pas utile pour négocier quoi que ce soit.
Non, d'accord. Avec Poutine, me faites pas confiance. Non. Et voilà, c'est pas une langue très simple non plus. Il n'y a pas de langue facile. Jamais je ne parlerai l'espagnol de Cervantes ou l'anglais de Shakespeare. Je ne parlerai pas non plus l'euskara de Mikel Laboa, par exemple.
Exactement. Bon, écoute, Jean-Serge, mille esker hainitz pour cet échange riche et inspirant. On se retrouve très vite pour découvrir d'autres membres de la liste Elgarekin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site elgarekin2026.eus. Mille esker d'énergie, merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine rencontre.
Mille esker d'énergie. Ciao.